BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h pile, nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission. C'est les experts. On a encore une demi-heure de débats et de controverses à partager ensemble avec Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, Olivier Provost, directeur et associé de Rumeurs Publiques, et Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. On va continuer avec l'économie américaine, avec le président américain Donald Trump, qui veut imposer de nouveaux droits de douane, oui, ça faisait longtemps, à pas moins de 60 économies. C'est le énième rebondissement dans l'épisode de la guerre commerciale. Avec deux annonces à Washington cette nuit, le gouvernement a fait appel de la décision de justice qui impose le remboursement aux entreprises des surtaxes annulées plus tôt cette année par la Cour suprême. On parle de dizaines de milliards de dollars de remboursement. Et puis ensuite, dans la quête d'un prétexte pour maintenir ces taxes, le représentant au commerce américain a dévoilé le résultat d'enquête. Et alors là, il a sorti la carte travail forcé pour faire payer ses principaux partenaires commerciaux. Alors là, il y a deux catégories, ceux qui ne font pas assez, ceux qui nous regardent, ce sont les pays en jaune, ceux qui ne font pas assez contre la lutte contre le travail forcé, cela, ce sera 10% de droits de douane. L'Europe en fait partie. Et puis ceux qui instrumentalisent un peu plus ce travail-là, les pays en rouge, Amérique latine, Russie, Asie, l'Australie, eh bien c'est 12,5 points de taxes supplémentaires. Philippe, une première réaction
Là, pour le coup, c'est assez surprenant, parce que le pays qui n'en fait pas assez parmi les pays occidentaux, puisque en orange et en jaune, nous avons essentiellement des pays occidentaux, ce sont les États-Unis. Donald Trump vient de rencontrer Xi Jinping, et que je sache, la question du travail forcé au Xinjiang chez les Ouïghours n'était pas sur la table de négociation. Or, le gros du travail forcé dans le monde, aujourd'hui, il se situe là. Donc, quand on parle de travail forcé, c'est la question de la Chine. Donc, le pays qui pose le plus de problèmes à cet égard, parce qu'il importe très clairement dans ses composantes du travail forcé chinois, ce sont les États-Unis. Voilà, donc ce n'est pas l'Europe, au contraire, les autres pays ont plutôt des législations beaucoup plus contraignantes de ce point de vue-là que les États-Unis. Alors, deuxième point, peut-être une précision, Donald Trump ne fait pas appel contre la Cour suprême, mais contre une juridiction inférieure. Il n'y a pas d'appel contre la juridiction Cour suprême, mais une juridiction inférieure a décidé, et elles vont le faire à peu près toutes dans les mêmes conditions, que, étant donné la décision de la Cour suprême, l'État américain doit rembourser les personnes qui ont payé des droits de douane. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire, n'est-ce pas, une appel contre cette décision. Et c'est ce qui va être fait. Ça veut dire que jusqu'au terme du mandat de Trump, nous allons avoir, et les entreprises vont avoir, une grande incertitude sur le remboursement ou non remboursement
c'est une instabilité
des
totale,
droits de douane. Voilà, une instabilité totale qui, on parlait de la croissance américaine, va quand même avoir un certain nombre de conséquences sur l'activité américaine.
On pensait que ça allait plomber l'économie l'année dernière et puis finalement on se rend compte que pas tant que ça, non ?
Oui, elle est ouverte.
Nathalie, puis Olivier.
En fait, elle est tout simplement, elle est quand même modérément ouverte, l'économie américaine. Il faut bien se dire que c'est, par rapport à l'Europe, elle est moins ouverte. Donc effectivement, ça perturbe. Je pense que là, les entreprises, elles ont intégré le fait qu'il n'y aura jamais de stabilité. Enfin, c'est à peu près, je pense qu'elles ont... Elles ont pris en compte.
On est complètement perdu avec tous ces changements.
Elles sont en train d'intégrer. Donc elles sont en train d'intégrer le fait qu'effectivement ça va changer, qu'il va y avoir des recours en permanence et que de toute façon elles reverront sans doute jamais l'argent. Elles vont faire ça.
Avant 4 ans. Avant
exactement. 3 ans. Ce sera comme en économie souvent on le dit. Ça a un coût perdu. Oui. Et puis puis elles vont passer à autre chose. Mais c'est vrai que pour les États-Unis ont pour eux le fait qu'ils sont quand même moins ouverts qu'ils commercent quand même beaucoup en leur sein.
C'est la grande dynamique mondiale maintenant. On met les grands empires sous cloche. Il n'y a plus que l'Europe qui est ouverte. On en parlera un tout petit peu plus tard. Mais Olivier,
deux remarques par rapport à ça. Un, je crois qu'on est tous d'accord. Globalement, cette histoire de droits de douane, ça ne marche pas. Ni en moins, ni en plus. C'est une espèce de jeu à somme nulle à coup d'intox. Et donc, in fine, le résultat, d'ailleurs...
Il va tirer quelques centaines de milliards de recettes quand même supplémentaires. Il a un budget,
alors, ça peut,
un déficit à
combler. À un moment, ça peut jouer sur des secteurs extrêmement ciblés. ciblée. Typiquement, par exemple, parlez-en à un moment aux producteurs de vin ou aux producteurs de fromage. Ben oui, dès que vous êtes sur des petits volumes à l'échelle mondiale, là, vous pouvez avoir peur. Quand vous êtes sur de l'économie très large, honnêtement, c'est l'épaisseur du trait. Mais deuxièmement, Trump, on le sait comment il fonctionne, que en rapport de force. Regardez les pays sur la carte que vous avez montrée, et notamment les pays en jaune. Les pays en rouge, c'est presque de l'esbroufe. Mais les pays en jaune, vous voyez qu'il y a le Canada et qu'il y a le Mexique, et vous voyez qu'il y a l'Europe. Oh, curieusement, c'est les pays avec lesquels il y a des négociations extrêmement tendues sur, à un moment, des accords globaux. Oui. Donc, en fait, Trump se resserre de cette menace pour continuer à mettre la pression sur ses partenaires commerciaux. Encore une fois, les États-Unis se montrent une fois de plus durs avec leurs alliés qu'avec leurs ennemis. Oui. Et donc, il remet un coup de pression sur le thème. Attention, sur les accords commerciaux, je peux avoir d'autres leviers. C'est comme d'habitude le rapport de force sur lequel joue Trump. Mais après, sur les résultats macroéconomiques, ça reste relativement marginal.
L'Europe a bien joué face à ça, Philippe, dans la négociation.
Moi je crains que l'Europe ait pas bien joué.
Parce qu'on vient de valider l'accord, finalement. Avançons plus tard, quasiment.
Est-ce que les États-Unis de Trump sont une contrepartie avec laquelle on peut négocier? Nous avons négocié des droits de douane, nous avons un accord sur les droits de douane, nous nous sommes inclinés devant ces droits de douane américains, il n'était pas question d'en ajouter, première occasion venue, on en ajoute, je pense dans 6 mois, on en ajoutera encore, dans 1 an, encore. Donc, nous découvrons, comme les Américains, qu'il n'y a pas de possibilité de négociation, non point avec les États-Unis, mais avec l'administration Trump, parce que quel que soit l'engagement ou la parole de cette administration, elle ne vaut rien.
Et vous perdez à la fin.
Et on perd à la fin. Parce qu'à la fin, on a donné quelque chose, mais c'est comme si on n'avait rien donné, donc rebolote la fois suivante.
L'accord a été renégocié, là, c'est passé assez sous les radars, mais avec 2 clauses intéressantes. La première, c'est qu'à la fin du mandat de Donald Trump, cet accord tombe.
Oui.
Donc c'est retour à la normale. Et secondo, si Donald Trump change une virgule dans ses droits de douane, et il vient de le faire, une semaine après, l'accord est censé tomber aussi. Je ne suis pas sûr que le président américain ait saisi la nuance du texte adopté par les Européens. Alors, mais a priori,
vous avez
bien décidé.
Vous avez raison, c'est important.
L'accord USUE ne veut plus.
Oui. Je ne sais pas si. Mais comme nous n'avons pas de juridiction pour décider, puisqu'il n'y a plus d'ordre international et que Donald Trump n'acceptera pas d'arbitrage, je ne sais pas très bien ce que ça va devenir. Mais il est clair qu'il n'y a pas d'accord possible et que les accords existants, je ne sais pas ce qu'ils valent.
Derrière, ça pose quand même à un moment la question du modèle européen qu'on veut à un moment défendre. Parce que ces accords commerciaux partent à un moment du principe qu'on est une Europe qui produit et qui exporte.
Oui.
Sauf que
parce que le cas, on a une balance commerciale excédentaire de 360 milliards.
Sauf que toute l'Europe, toute la jurisprudence européenne a été bâtie sur une Europe des consommateurs. C'est-à-dire que fondamentalement, on a bâti un modèle qui est, on est un vaste marché de consommation, et donc vous, produits chinois, rentrez, le consommateur européen va y gagner, puisque je vais avoir des produits de qualité moins chère, et dans le même temps, on est en train de se battre, à travers ces accords, sur une Europe qui serait encore productive et qui exporterait.
Oui.
Et fondamentalement, le paradoxe de quelle Europe on défend, il est posé dans ce sujet-là. Et je trouve que, vu de Bruxelles, vu de Berlin ou vu de Paris, il y a des visions que je ne trouve pas totalement coordonnées en la matière.
Alors on va y venir justement, parce que la semaine dernière, vendredi dernier, un séminaire s'est tenu à la Commission européenne et les commissaires ont été mandatés en vue du prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement fin juin, qui sera consacré à ces questions de tensions commerciales, notamment avec la Chine. Les commissaires ont été mandatés pour une nouvelle boîte à outils. On adore ça à Bruxelles, les boîtes à outils, pour être plus agile et peut-être un peu plus véloce dans la réaction apportée aux pratiques anti-dumping de la Chine. Parce que quand même, les États-Unis se sont mis sous cloche des produits chinois. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que tout cela a été dérouté vers l'Europe. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les chefs d'État vont se saisir de ces outils comme rétorsion commerciale à la Chine. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un pays qui bloque, c'est l'Allemagne. Et qu'au sein de l'Allemagne, en réalité, c'est des grandes compagnies qui bloquent, et notamment les fabricants automobiles, Volkswagen, BMW et Mercedes en tête. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous flinguer l'économie européenne? La question est un peu brutale, mais je trouve qu'on ne la pose pas assez en France sous ces termes-là. Olivier Provost.
Alors, je suis un peu le sujet de près pour regarder ce qui se passe en Allemagne. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a une bataille intérieure en Allemagne en ce moment. Il y a une bataille intérieure. Oui. Il y a deux forces en opposition entre ceux qui se rendent compte que tout ce qu'a fait l'Allemagne depuis 10 ans, qui était de dire « je défends mon économie exportatrice et pour ça, fondamentalement, je donne des gages à la Chine pour un donnant-donnant. » Et du coup, bah, on s'est opposé aux mesures sur le photovoltaïque pour le taxer. On s'est opposé à un certain nombre de choses. Et donc, in fine, le maillon faible d'une Europe protectionniste était en Allemagne. Et globalement, où un certain nombre de voix en Allemagne disent « on a eu tort, on s'est trompé, ça fait 10 ans, voire 20 ans qu'on s'est trompé, faut faire machine arrière et faut imposer. »
Et puis, ça, on les entend vraiment en Allemagne?
Alors, il y a un débat, notamment politique, et qui commence à se faire entendre au niveau de la Commission européenne, même auprès d'Ursula von der Leyen. Et il y a effectivement des industriels qui disent encore quelques minutes, monsieur le bourreau, qui globalement produisent encore, qui exportent encore un peu vers la Chine, et qui disent, attendez les gars, moi j'ai quand même des voitures à vendre. Mais le débat est très très fort en Allemagne, ça va être intéressant de voir de quel côté retombe la pièce, comme dans Match Point. Mais fondamentalement, le débat intérieur en Allemagne, il est extrêmement vif là-dessus.
Nathalie.
Alors moi, je vais être très provocatrice et désagréable. Je pense qu'en fait, c'est inutile. Enfin, maintenant que la Chine est de toute façon commerce avec nous, je pense que c'est complètement illusoire de vouloir empêcher. Il vaut mieux une Chine de toute façon qui soit là et qui exporte et qui produise qu'une Chine qui aille mal. Et je pense qu'il faut partir du principe que leur avantage comparatif, c'est la subvention. Donc, on part de ce principe-là.
J'ai entendu ce chiffre, on m'a donné de sources européennes ce chiffre. Un quart des entreprises chinoises qui sont présentes en Europe vendent à perte. Mais oui, mais est-ce que c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie et détruire complètement, menacer par exemple l'industrie automobile? On produit aujourd'hui 14 millions d'automobiles européennes, Europe au sens large. Les projections à 2030-2035, c'est qu'on tombe à 8 à 9 millions seulement.
Non, pas sous les 10.
Avec non plus 70% de pièces européenne, mais moins de 50%. Est-ce que on ne risque pas de tuer l'économie européenne en faisant ça, Nathalie puis Philippe?
Oui, alors non, le commerce international n'a jamais tué les économies. Et par contre, oui, c'est un fait qu'il faut s'adapter. Étant donné que maintenant la Chine s'est embarquée sur l'automobile, il est certain que soit l'industrie automobile s'adapte en Europe dans la mesure où elle peut s'adapter. Et c'est vrai que là, par exemple en France, on a quand même quelques petits soucis en matière de coût du travail et de réglementation qui sont effectivement pas faciles. Si vous voulez, effectivement, face à un rouleau compresseur comme ça, vouloir aller sur le même terrain, c'est pas possible. Donc il faut aller sur un autre terrain. Donc si c'est pas la voiture électrique telle que la Chine la fabrique, il faut trouver effectivement des alternatives. Le problème, c'est qu'effectivement, comme on est dans des économies, en tout cas en Europe, on réglemente beaucoup, en France encore plus, eh bien la capacité d'aller faire autre chose est moindre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment on veut une Chine qui aille moins bien? Non. Par contre, on sait que la Chine, elle est rentrée comme ça dans le commerce mondial. Donc, à ce moment-là, il ne fallait pas la faire rentrer en 2001, parce que faire rentrer de toute façon un pays communiste qui subventionne, on s'attendait à quoi? Ce qui joue avec les lois du marché? Non. Donc, maintenant qu'il est là, effectivement...
Oui, l'OCDE vient de pondre un rapport sur les aides il y a 24 heures. Aux surprises, ils subventionnent 6 à 7 fois plus que nous, Européens.
Exactement, c'est un pays qui continue. C'est un pays étrange, effectivement, puisqu'il est à la fois, il y a de l'économie privée, entre guillemets, de la concurrence dans les secteurs pour effectivement, parce qu'ils ont compris que c'est pas le planificateur qui sait identifier celui qui gagne.
C'est très mathusien, effectivement. On en
mais par contre, c'est toujours lui qui donne les grandes voix. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit il fallait les laisser à la porte, mais maintenant qu'ils sont là, il faut juste faire en sorte que nous, on puisse effectivement...
Les États-Unis ont fait un autre choix. Ils ont verrouillé 100% de droits de douane sur l'automobile.
À nouveau, ils ont d'autres secteurs. Ils sont sur l'IA. Enfin, je pense que eux, le sujet... L'automobile, c'est fini aux États-Unis depuis qu'il y a eu les Japonais. Ils ont appris. Ils font autrement. Et l'automobile existe toujours, mais dans d'autres secteurs. Ils ne font pas des voitures, mais ils aident aux composants. Enfin, il y a d'autres façons de créer. En fait, en Europe, on veut persister sur ça.
La vieille industrie, c'est ce que vous dites.
Il faut juste adapter son modèle.
Non, mais je partage ce point de vue. Tout d'abord, aux États-Unis, il y a des endroits verrouillés et d'autres pas verrouillés.
Ouais,
soyons prêts.
Complètement.
La particularité de Trump, c'est d'ailleurs d'être contre toute attente, de vouloir protéger les industries en déclin et de vouloir taxer ceux qui ne sont pas en déclin. Par rapport à la Chine, le sujet est quand même complexe. Nous ne parlons pas... C'est comme par rapport aux États-Unis. Nous avons un sujet extrêmement complexe. Nous avons d'abord un sujet politique. Dès lors que les États-Unis deviennent un partenaire moins crédible, pouvons-nous nous permettre d'avoir des relations complètement hostile avec la Chine. C'est un vrai sujet. Où est-ce que nous devons jouer, pardonnez-moi, le renversement des alliances ? À ce stade, je ne sais pas ce qu'il faut conseiller, mais avant de me précipiter dans la porte ouverte, je dirais, attention, nous avons réellement à penser le monde. Et donc à penser, est-ce que nous voulons un monde purement moral, ou est-ce que nous voulons un monde aussi réaliste ? C'est-à-dire où il y a des puissances, il y en a qui nous sont moins favorables, il y en a qui pensent comme nous, il y en a qui n'en pensent pas comme nous. Question politique. Donc là, je vois un vrai sujet de ma part pour rentrer comme ça rapidement sur des droits de douane. Deuxièmement, les droits de douane, ça sert à quoi ? Si vous êtes sur un produit que vous ne savez pas bien produire, ou vous êtes définitivement où vous n'avez aucun avantage comparatif, mettre des droits de douane, c'est simplement vous tirer une balle dans le pied à vous. N'est-ce pas ? Et c'est notamment
pour le consommateur.
Exemple, les piles chinoises, je suis désolé, les piles françaises ne concurrenceront pas avant plusieurs dizaines d'années, et peut-être jamais, les piles chinoises. C'est pas la peine. Les batteries chinoises. Importons les batteries chinoises et si possible au plus bas prix. Si les Chinois veulent nous les subventionner, merci messieurs les Chinois, subventionnez que le consommateur chinois paye nos batteries.
Exactement.
Nous y gagnons.
Oui, sauf qu'on a une industrie automobile qui existe avec 13 millions de salariés, qui produit 15 millions de voitures.
Mais l'industrie automobile, c'est une industrie classique. Quelque part, c'est pas là ce qui va nous porter dans l'avenir, nous faire retrouver les meilleurs moyens de l'intelligence artificielle. Et c'est là le deuxième
point. Donc on abandonne, on est d'accord autour de la table.
Il faut dire aux constructeurs européens, faites un effort. Et la voiture, on veut développer la voiture électrique. Or la voiture électrique sans des batteries chinoises, je ne sais pas ce que ça vaut.
La prochaine 208 sortira d'abord
avec... J'ai une voiture électrique européenne, honnêtement. Alors, dernier point, c'est quoi les secteurs que l'on peut défendre ? C'est ce qu'on appelle, c'était la vieille thèse, vous savez, des industries en enfance, c'est les industries de l'avenir. Là, il faut effectivement que nous les protégeons. Là, il faut investir massivement. Et l'investissement massif dépend de la protection. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Or, aujourd'hui, la question des droits de douane, elle ne porte pas sur la détection des industries en enfance, où il faudrait se protéger et contre les États-Unis et contre la Chine.
Oui, il y a un texte qui arrive, d'ailleurs, contre le numérique et la tech.
Donc, pour ma part, c'est là qu'il faut enfoncer le coin.
Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, Olivier Provost ? On continue avec l'automobile sur entre je mets sous cloche, je vous empêche de vendre chez moi et j'abandonne mon industrie automobile, qui est peut-être celle du partenariat, ce qu'on a vu avec Stellantis,
Ouais, mais c'est un piège absolu parce que les Chinois sont très malins. Les Chinois se sont dit « Ah, l'Europe, c'est une démocratie ». Qu'est-ce qui compte dans une démocratie à un moment pour l'électeur ? C'est l'emploi. Donc, le maillon faible, c'est l'emploi. Donc, à un moment, je fais un accord avec Stellantis sur l'usine de Rennes. Donc, Feng arrive. Et pas de problème, je vous garantis l'emploi. Donc, je mets de la production chinoise.
C'est le grand sujet. Oui, l'investissement chinois en Europe a augmenté de 67%.
Donc, je vous sauve l'emploi à court terme, mais à moyen terme. Qu'est-ce qui va se passer à moyen terme ? Une fois que cet emploi sera dépendant à un moment de la production de Dongfeng, qui nous dit à un moment que Dongfeng va garder son investissement à Rennes ? Personne ne le dit. Et d'ailleurs, regardez la réaction extrêmement mal à l'aise des syndicats à Rennes, y compris de la CGT, disant bah, « Nous, à court terme, on veut bien sauver l'emploi, mais c'est quoi les garanties ?» Les garanties, quand vous discutez avec la famille Peugeot, à un moment, vous pouvez obtenir des choses sur la table. Vous discutez avec Dongfeng, la CGT discutant avec Dongfeng. Et à la fin, les garanties posées par Dongfeng, elles sont où ? Elles sont où ? Donc il y a ce piège à un moment de « je garantis l'emploi ».
Non, mais les communistes progressent, ils peuvent s'entendre au niveau international.
Il y a du communisme à plusieurs vitesses. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre piège absolu, c'est « je te sauve ton emploi à court terme ». Mais fondamentalement, une fois que tu m'as laissé entrer, derrière, bien malin qui peut dire quel sera le paysage à 50 ans. Et nous, à un moment, pour sauver notre emploi, c'est-à-dire à un moment nos électeurs, in fine, on laisse rentrer le loup dans la bergerie.
Est-ce que c'est pas ce qu'on disait des constructeurs japonais dans les années 90 ? Aujourd'hui, le premier producteur automobile en France s'appelle Toyota, avec 284 000 précisément voitures produites l'année dernière à Valenciennes.
Eh bien, ouais, Raphaël, vous m'avez pris effectivement ma remarque. J'étais en train de dire que ça ressemble beaucoup à Toyota qui est arrivé aux États-Unis à l'époque. Et j'imagine que quand on les a vus débarquer, on a dit la même chose. Donc, effectivement, non, c'est pas, il n'y a pas d'évidence sur le fait que les Chinois seraient nécessairement. Eux aussi, ils ont quand même des enjeux. Faut pas l'oublier. Leur modèle économique ne va pas si bien que ça,
hein. Ah bah il va même donc, très mal, lui, termes de consommation intérieure et de politique intérieure et de démographie.
Il faut aussi qu'il s'assure que leurs relations se maintiennent quand même dans le temps avec l'extérieur.
Non, mais, écoutez, moi j'ai un petit problème dans ce débat. Je redécouvre un débat que j'ai connu dans les années 80.
Complètement, c'était avec les Japonais.
Où on me disait, les Japonais et les Coréens vont bientôt subventionner la consommation mondiale d'automobiles. Bien évidemment, quand vous faisiez le calcul entre le PIB coréen et la consommation d'automobiles dans le monde, vous vous aperceviez qu'il y avait une inadéquation totale. Quelque part, il y avait un problème dans l'industrie automobile française. C'était là qu'était le problème. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, commençons par faire notre autocritique. Mettre des droits de douane sans autocritique, c'est tout simplement perdu d'avance. Alors, le deuxième point, quel est le problème fondamental de l'Europe et de la France? Il est où? D'ailleurs, les Chinoises le disent à l'envi. Il est dans la question du travail.
Ben du coût du travail.
Du coût du travail et de la durée du travail. Nous avons un vrai problème, c'est-à-dire l'Europe travaille peu et la protection ne sera jamais qu'une protection du sous-développement de l'Europe. C'est tout. C'est-à-dire que l'Europe peut continuer à vivre et à se sous-développer grâce à une protection, alors que sans protection, elle ne pourra pas. Donc là, on a un vrai sujet, et je crois qu'il faut reposer la question du travail, n'est-ce pas, de la rémunération du travail, de la protection sociale, de l'ampleur de la protection sociale. Je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de la Chine, je crois qu'il y a des vrais problèmes en Chine, y compris des problèmes humains, mais néanmoins, honnêtement, la règle des 35 heures reste un problème de fond, qui, chaque jour, nous coûte un peu plus cher.
Je rappelle que c'est parfaitement illégal en Chine, mais la moyenne, le temps de travail hebdomadaire est de 70 heures là-bas. Olivier Provost.
Il faut quand même être prudent quand on analyse secteur par secteur. Parce qu'on parle de la Corée, et on se dit, oui, bah, l'industrie automobile coréenne n'a pas dominé le monde. Il y en a une, l'industrie coréenne, qui, elle, a dominé le monde. C'est l'industrie, à un moment, de construction des bateaux, notamment des tankers.
Bah,
et à l'époque, il faut se souvenir que les Chaebol coréens, qui étaient ces consortiums, in fine, ils ont cassé les prix, ils ont tué tous les constructeurs navaux à travers le monde et aujourd'hui, ils sont ultra dominants. Je me demande sur l'industrie automobile parce qu'on voit la voiture dans son ensemble. Mais le jour où les Chinois vont dominer l'industrie de la batterie, il n'y aura plus à un moment un constructeur automobile qui ne sera pas dépendant de ça. Ben oui. Et ce jour-là, ils pourront imposer leurs prix et leurs conditions comme ils voudront. Donc, regardons quand même de près, secteur par secteur. À un moment, en voyant une voiture, ils pourront continuer à produire des voitures en Europe, mais si 80% de la valeur de la voiture est produite par des batteries qui, elles, sont produites en Chine, on aura un
petit souci. Je peux juste réagir aussi ponctuellement à ce que vous avez dit.
Oui,
vous avez raison sur les navires, mais regardons, les méthaniers sont des navires hyper sophistiqués, et honnêtement, l'industrie maritime de construction maritime française des années 80-90 serait pas capable de construire des méthaniers aujourd'hui. Donc, si nous devions construire des méthaniers, c'est sur des bases tout à fait nouvelles. Nous pourrions très bien le faire. Or, nous ne le faisons pas. Et la Corée ne subventionne plus sa construction maritime. C'est que là, nous avons un vrai problème qui est lié tant au coût du travail qu'à la spécialisation, à l'éducation et à la formation du travail,
au capital
et à l'insuffisance d'ingénieurs de base.
D'où viendrait le capital?
C'est
un super bon projet, mais si vous n'avez pas le capital à mettre sur la table.
Possiblement, Nathalie.
Je voulais juste rebondir, et puis il ne faut pas oublier que l'industrie automobile aussi devient une industrie très digitalisée.
Oui, de la tech, très clairement, c'est du logiciel maintenant, les voitures.
Il y aura peut-être les batteries, mais peut-être qu'on pourra aller beaucoup plus sur les logiciels. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire, et il ne faut pas oublier aussi l'émergence de la voiture autonome. Donc, c'est un secteur qui a encore beaucoup d'avenir, ou d'avenir au pluriel, je pense. On n'est pas à la fin des développements possibles. Par contre, effectivement, comme il a été justement remarqué par Philippe Trénard, en fait, notre problème, en évoquant le coût du travail, c'est à nouveau qu'en fait, on a une capacité d'adaptation qui est faible. Donc, en fait, notre problème, c'est qu'en fait, on a face à des gros, grands changements de ce genre, en fait, notre capacité d'adaptation, elle est contrainte par ce carcan qui est le nôtre aujourd'hui.
Il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, Olivier Provost.
Alors, il y a une petite voie de sortie quand même, parce que je crois au génie français. Je ne voudrais pas qu'on soit complètement gloomy ce matin.
L'optimisme de la volonté.
Quand je regarde, par exemple, ce que fait justement Mistral, où vous aviez ce matin en plateau une représentante de la quantique assez formidable, la voie française, qui est une voie étroite, c'est la voie du B2B.
Oui.
C'est-à-dire que le B2C, la bataille est perdue. La bataille est perdue sur le B2C. Encore une fois, on a fait une Europe des consommateurs. Mmh. L'argent ne vient plus là. En revanche, sur le B2B, mmh. on a la chance d'avoir encore en Europe, et notamment en France, des entreprises formidables, que ce soit un Total, que ce soit nos banques, que ce soit, qui sont des boîtes solides, qui sont des boîtes mondiales, qui ont de l'argent et qui ont besoin, à un moment, de cette intelligence développée par nos champions français. Et en fait, le calcul que fait Arthur Mensch, par exemple, qui est de dire, moi, je vais pas dans le B2C, j'y perdrai ma chemise. In fine, la bataille, elle est perdue. Et rien ne dit d'ailleurs que les grands Américains vont gagner cette bataille-là, parce que les besoins en énergie dépassent largement levées de fonds astronomiques qu'ils font quand même.
La frugalité de Mistral est un avantage compétitif.
En revanche, le B2B, c'est une bonne voie. Et de dire, moi, je conclue des accords avec les grandes boîtes françaises pour, à un moment, leur apporter des solutions B2B en IA, celle-là, elle est intéressante. Parce que, en fait, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, je rebondis sur ce que disait Philippe sur le manque de capital. On n'a pas beaucoup d'argent en France et en Europe. Allons chercher l'argent là où il est. Or, il est dans le B2B. Y compris gagné au niveau international. Il est dans le B2B, il faut aller le chercher là. Le petit génie français pourrait être là, cette sortie par le haut, en se spécialisant sur le B2B.
Et en protégeant, en protégeant, entre guillemets, l'investissement, c'est-à-dire en le voyant, parce que c'est l'IA de l'investissement, vous avez tout à fait raison, et c'est là qu'il faut investir, et c'est là d'ailleurs qu'on peut gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?
Bien sûr,
si on est
c'est là qu'est l'argent et c'est là qu'est le
rendement. Si on apporte vraiment des solutions.
Tout à fait. Nathalie, votre avis.
Oh non, mais je ne doute pas un instant, effectivement, des capacités ingénieuses des industriels, enfin des Français en tout cas, hein, et des entrepreneurs. Simplement, effectivement, on regrette qu'il y en ait pas plus, quoi. C'est surtout ça.
Ça présuppose quelque part que le règne du.
On n'a jamais créé autant d'entreprises quand même, en France. Alors les défaillances sont à un niveau très élevé, mais on a quand même beaucoup d'entreprises.
Et on regrette une deuxième chose, c'est que quand Arthur Mensch se fait auditionner à l'Assemblée nationale, il y a deux députés dans la salle. C'est-à-dire que le point, le maillon faible de tout ça. Hein. S'il n'est pas dans l'industriel, il n'est pas dans l'investisseur, il est un peu dans le politique. Oui. Et l'absence à un moment de maturité politique sur ces sujets-là, c'est-à-dire que vous dites à un politique, la sortie par le haut, c'est l'investissement de la tech française dans le B2B, vous leur parlez chinois, sans mauvais jeu de mots, par rapport à nos débats précédents.
Vous avez vu la réaction de Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, suite à l'audition d'Arthur Mensch.
Non. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Qui a dénoncé le fait qu'il utilise le mot « trillion ». Qui était une sorte
c'est un mot emprunté.
Pas un mot emprunté, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un trillion et que donc on parle un langage qui
n'est pas
en dehors de l'entendement des mortels, que c'était presque une violence sociale c'est là que le combat politique se joue.
Si le consommateur est roi, c'est vrai que le terme de trillion n'est pas tout à fait adapté.
Oui, mais enfin ça donne le niveau quand même du débat politique.
Moi ce qui m'inquiète beaucoup, encore une fois je parlais du génie français, l'endroit où je sens un peu moins le génie français, malheureusement,
c'est en politique.
Il est un peu dans notre sphère politique. Ça commence dans l'optique de 2027 à être un tantinet inquiétant.
Alors même que la grande tradition française des ingénieurs français, c'était justement d'investir d'abord dans le B2B. Ça a été une tradition et qui a fait la force de la France.
Tout à fait.
Bon, on aura un bon stress test pour la campagne présidentielle. Merci à tous les trois.